à Voigny. Cette semaine, Virginie Bloch-Léné rencontre Marjane Satrapi. Ce soir, Persépolis.
Bonsoir Marjane Satrapi.
Bonsoir.
Hier soir, nous avons parlé de votre enfance, à partir de l'âge de 10 ans, jusqu'à votre départ de l'Iran pour la France en 1994. Et ce soir, il sera question de l'œuvre qui vous a rendu célèbre, Persépolis, qui fut publiée entre 2000 et 2003 et qui a sans doute donné un coup d'envoi à un genre artistique. Votre intention en écrivant Persépolis, Marjane Satrapi, c'était raconter votre vie ou c'était pallier une méconnaissance dont l'Iran faisait l'objet?
Sérieusement, ça n'a jamais été mon truc de raconter ma vie. C'est-à-dire, on a parlé beaucoup d'autobiographie. Normalement, l'autobiographie, c'est un ouvrage que vous écrivez parce que vous détestez votre mère, votre père, votre sœur. Vous osez pas le leur dire, vous écrivez un livre et vous réglez vos problèmes avec le livre. Ça, normalement, c'est ça, c'est une autobiographie. Moi, j'ai utilisé mon histoire personnelle pour raconter quelque chose qui se passait autour de moi. Mais je n'avais pas d'autre moyen que de prendre cette partie-là. Parce que si je faisais autrement, c'était comme si je prétendais que j'étais soit sociologue, soit politologue, soit philosophe, soit historienne. Et non seulement je n'ai pas cette prétention, mais en plus je n'ai même pas la connaissance et la science pour ça. C'est que mon point de vue personnel. Et donc j'ai utilisé cette histoire pour raconter l'histoire qui était plus grande. Et un pays aussi, face à des événements comme ça, c'est comme un enfant qui grandit et petit à petit. Et comment on s'habitue en tant que, par exemple, vous êtes une société, un changement comme ça, ça se passe. Comment vous faites pour faire semblant que vous vivez normalement quand il y a une guerre, quand il y a une dictature religieuse? Comment on fait finalement pour vivre et avoir un semblant de vie normale? Donc c'est pour ça que j'ai dû le faire à mon propre nom et aux premières personnes du singulier, parce que sinon, ça aurait fait une œuvre comme ça d'analyse, ce qui n'était pas du tout ma prétention.
Vous connaissez les chiffres de vente?
Je pense qu'on est, je ne sais pas, 3-4 millions de livres vendus dans le monde. Là, l'endroit où je vends le plus, c'est aux États-Unis. Mm-hmm. Parce qu'en fait, aux États-Unis, la première année du college, vous avez des lectures qui sont imposées. Donc, il y a des livres que les élèves ils doivent lire avant de leur première année universitaire et que Persépolis doit faire partie de 200 ou 250 universités aux États-Unis et que je vais souvent pour faire des conférences, enfin, à l'époque quand je pouvais. Et donc, voilà. Mais oui, j'ai beaucoup vendu de livres, oui.
En Iran, ce n'est pas publié.
Oui, mais en Iran, tout le monde l'a lu. Mais vous savez, l'Iran et la notion du copyright, c'est une notion assez vague, inexistante. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est que avant, quand j'étais adolescente, moi, j'allais au marché noir pour acheter la musique que j'aimais et tout ça, et tout. Et après, j'ai fait partie de ce marché noir moi-même. Donc, j'avais l'impression d'être très cool.
La reine du monde.
La reine du monde, ouais.
Vous êtes d'accord ou pas sur le fait que vous avez lancé un genre artistique?
Je pense pas, non. Non. Je pense qu'avant moi, c'est Art Spiegelman qui l'a fait, c'est quand il a écrit Maus. C'est lui qui a inventé le genre, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, c'est d'ailleurs, c'est à la lecture de Maus d'Art Spiegelman que je me suis dit, en fait, c'est un super média, c'est que, en fait, je peux... Parce que pour moi, la bande dessinée, c'est ce que tout le monde pense de la bande dessinée. Enfin, qui pensait de la bande dessinée, c'était de la lecture pour adolescents, comme ça, des choses légères et tout. Et quand j'ai lu Mars, je me suis rendu compte, en fait, que c'est juste une manière de raconter et qu'on pouvait vraiment parler de n'importe quelle histoire sous cette forme-là. Donc, c'est lui qui est l'inventeur du genre.
Vous l'avez lu avant d'aller à Strasbourg?
Ah non, non, on me l'avait donné pour mon anniversaire. Et j'étais là, pourquoi ils m'offrent une bande dessinée? Et j'ai commencé à le lire et je l'ai lu d'un trait. C'était extraordinaire. Et à l'époque, je n'avais pas du tout idée que j'allais faire une bande dessinée moi-même, parce que c'est quelque chose, c'est un travail qui est très obsessionnel. Vous savez, c'est un peu un travail de moine. Vous êtes assis à votre table, comme ça, case par case, il faut les mêmes personnages, comme ça. Et il faut avoir un côté comme ça, un peu monacal et obsessionnel en même temps. Et je pensais que je n'étais ni l'un ni l'autre. Et je me suis rendu compte que j'étais et l'un et l'autre.
Et vous saviez que vous aviez un style d'écriture?
Non, j'ai jamais pensé que j'étais très douée pour quelque chose. Par contre, j'ai toujours su que j'étais intelligente. Ça, c'est une chose que je sais, c'est que j'ai un bon cerveau. Bon, après, maintenant, on va dire, ah, elle s'envoie des fleurs. Oui, j'ai un bon cerveau. j'ai pas tout bon, mais le cerveau, il fonctionne. Après, le truc, bon, je savais que je savais dessiner. Après, à l'école, j'étais la meilleure en maths. C'est un fait. Voilà. Donc, j'ai un esprit qui est logique et j'apprends vite. Ça, je le sais. Après, quand j'ai commencé à faire la bande dessinée, sérieusement, j'ai commencé à le faire. C'était une question de vitale, je pense, parce que avant ça, j'avais une très grande dépression nerveuse qui faisait que j'arrivais pas à respirer. J'avais des problèmes réellement de respiration. Et il fallait que ça sorte. Mais à l'époque, je le comprenais pas comme ça. Je disais, bon, voilà, il faut que je le fasse et tout ça. Et de quoi je me plains? Je vis à Paris, tout va bien, nanana. Mais j'avais pas compris qu'il y avait eu des années de stress que j'avais accumulées, qu'il fallait que d'une façon ou d'une autre, ça se cristallise, que ça prenne une forme, que ça s'exprime. Mais quand je l'ai fait, je pensais vraiment pas que personne allait jamais le publier. Et quand ça a été publié, j'ai jamais pensé que personne aurait envie de le lire. J'ai jamais cru que rien du tout. J'ai juste, il fallait que je l'écrive, je l'ai écrit.
Vous étiez illustratrice de livres pour enfants, donc vous pensiez faire Persepolis presque pour vous et continuer vivre de vos travaux.
Non. Le truc, c'est pas, ça s'est pas passé comme ça. J'étais illustratrice et aucune maison d'édition ne voulait rien publier de mes histoires pour enfants, rien. Rien. Je suis allée plusieurs fois avec toutes les histoires que j'ai publiées après. Ils ont trouvé que c'était merveilleux et magnifique et quelle imagination. Mais pendant des années, c'était pas suffisamment abouti, c'était gna gna gna, c'était pas bien. Donc, j'y arrivais pas. Donc, à un moment donné, j'ai essayé, je me suis dit, je suis pas fait pour ce boulot. Donc, j'ai trouvé un autre boulot. Donc, première chose, j'ai fait un interview pour devenir chasseur de tête. Mais j'avais mal compris parce que je pensais que c'était chasseur de primes. Et comme toute personne qui est déprimée, je regardais beaucoup la télévision. À l'époque, en France, on montrait chasseur de primes avec Lee Majors. Donc moi, je pensais que chasseur de primes, voilà, on allait me donner des flingues, que j'allais chercher des brigands. J'arrive, il n'y a que des dames qui sont habillées comme ça, en costume beige. Moi, j'étais avec un pantalon, un treillis, j'étais prête pour le rouler-bouler, à me traîner dans la boue et tout. Et le mec, me voyant arriver, me dit, mais vous savez à quoi consiste le travail? J'étais, oui, bien sûr, chasseur de primes. Et je... Bon, voilà, donc ça, c'était pas bon. Après, j'ai voulu travailler pour un détective. Après, j'avais un problème d'éthique, ça allait pas du tout, parce qu'elle allait photographier les gens parce qu'il embrasse quelqu'un d'autre. Après, j'ai voulu travailler dans un magasin de fourrure dans l'avenue des Champs-Élysées, mais je connais rien en fourrure non plus. Donc finalement, là, j'ai fait une très grosse dépression. Ça s'est soulevé que le SAMU est venu un soir me chercher et je me suis cassé la tête. Bref, hein. Et à un moment donné, il a fallu que je fasse un truc. Donc j'ai fait Persepolis et j'ai pensé à rien. Je me suis dit, dans la vie, je vais faire mettre un pas devant l'autre et juste regarder mes pas. Persepolis est sorti, grand succès immédiatement. Et après ça, mes 5, 6, je ne sais plus combien c'est, de livres d'enfants que j'avais écrits qui étaient bien au chaud, je les ai publiés les uns après les autres. Et puis après, ça a continué, quoi.
Vous avez essayé plusieurs dessins. Est-ce que vous avez d'abord dessiné en couleur, puisque c'est en noir et blanc, ou c'est venu tout de suite?
À peu près tout de suite, oui. Il y a toujours un moment où vous faites quelques pages et puis vous vous dites... Non, ça va pas. Et puis après, voilà. Après, le truc, c'est que moi, je suis pas comme ces grands dessinateurs qui ont cette facilité de trait, qui peuvent vous dessiner tous les muscles, pratiquement toutes les veines, tous les nerfs, tout le système sanguin. Je n'ai pas ces capacités-là. Et en plus, j'étais dans un atelier où je travaillais à côté d'un Emmanuel Guibert qui dessine comme un dieu, un Christophe Blain qui dessine comme un autre dieu, tout. C'est grand, grand, grand. Et je me disais, mais mon Dieu, mais il me faudra 40 ans avant de pouvoir dessiner comme eux. Et je me suis dit, au lieu de stresser, de dire, je ne peux pas dessiner comme eux, je dessinerai comme moi, je sais. Et le style, ça vient toujours de ce qu'on ne sait pas faire. Ça vient jamais de ce qu'on sait faire. Parce que ce qu'on sait faire, c'est pareil pour tout le monde. Quand vous savez faire un dessin réaliste, que vous appeliez Rembrandt ou que vous vous appeliez je ne sais pas quoi, le dessin réaliste ou de Vinci, et c'est un dessin réaliste. Après, on voit par exemple le tremblotement de la main de Rembrandt et comme le rendu et tout ça, mais c'est à peu près, c'est la même chose. Le vrai style, ça vient de ce qu'on ne connaît pas. C'est une question de budget, vous voyez, c'est comme dans un film. À 100 millions, vous pouvez faire un piètre film qui n'a aucun intérêt. À 1 million, vous pouvez faire un chef-d'œuvre. Donc... Moi, j'avais 1 million.
Et ça, ce que vous dites sur le style qui vient de ce qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose que vous avez expérimenté ou on vous disait ça à l'école d'art de Strasbourg?
Non. C'est quelque chose que j'ai déduit par moi-même. J'ai déduit que c'est... Vous savez, j'ai fait toujours, par exemple, dans Persepolis, ces personnages qui se répètent comme ça avec des expressions différentes. Bah, pourquoi je fais ça? Alors les gens ils disent oui, c'est parce qu'ils regardent comme ça les motifs de Persepolis, de l'art persan, tout ça, tout ça. La réalité de la chose, c'est que quand il faut que je dessine 50 personnes qui font 50 trucs différents, je sais pas le faire. Ça va me prendre un temps fou pour faire une case. Bah, qu'est-ce que je fais? Je fais un truc comme ça, graphiquement c'est beau, et après je travaille sur des expressions différentes. Mais personne d'autre ne pense à ça, parce que les autres, ils savent dessiner, et ils courent, et ils jettent, et l'autre, il est sous l'arbre, et derrière, l'autre, il... Bon, voilà. Donc, c'est de là où vient le style. Honnêtement, c'est comme ça que ça se passe. Je suis une bonne dessinatrice, mais je ne suis pas une grande dessinatrice. Ouais.
Qui vous aimez comme dessinateur, Marjane Satrapi? Vous avez cité Emmanuel Guibert
Il y en a de très bons. Hein. Il y a Dan Close aux États-Unis qui est un super dessinateur. Vous avez Emmanuel Guibert qui est un super dessinateur. Christophe Plein, super dessinateur. Blutch, super dessinateur. Il y en a des merveilleux. Le plus grand, Toulouse-Lautrec, mais excellent dessinateur. Voilà, vous en avez des merveilleux.
Comment vous qualifieriez votre style de dessin, votre trait?
C'est très difficile parce que moi je regarde pas je n'analyse pas mon travail, donc je le fais. Donc je peux pas qualifier mon travail. C'est aux autres de qualifier mon travail. C'est pour ça aussi que je peux pas me présenter en disant oui, je suis artiste. C'est-à-dire entre artiste et branleur, il y a un petit trait d'union. C'est à l'autre de décider si mon travail est suffisamment artistique pour décider si je suis artiste ou pas. C'est aussi incongru que dire, vous savez, je suis super belle. Ben, c'est pas vous qui dites ça, les gens décident s'ils vous trouvent belle ou pas.
Et le ton, moi je dirais que le ton de Persepolis, il est faussement naïf.
Faussement naïve, non. J'essaye de me rappeler de comment j'étais enfant et comment je réfléchissais. Après, le plus important, c'est l'humour. Vous savez, dans le langage, on a différents niveaux, dans n'importe quelle langue au monde, mais dans le langage de façon générale, par exemple, vous et moi, on parle, et je vous dis table, chaise, machin, on parle des objets, on comprend. Après, on va parler des instincts. Je veux vous dire faim, soif, nanana. Pareil, on comprend. Les gens du monde, ils pleurent tous pour les mêmes raisons, et que ma mère est morte, et que ma sœur, machin, et que mon amoureux m'a quitté, et que mon enfant est malade. Mais est-ce qu'on rigole pour les mêmes raisons? Pas du tout. L'humour, c'est quelque chose qui est basé sur l'abstraction. C'est une notion. Et l'humour qui vous fait rire quelqu'un, par exemple, je sais pas, quelque part, c'est pas sûr qu'il va faire rire. Donc vous avez des blagues, par exemple, qui marchent dans une seule famille, après dans un village, après dans une ville, après dans un pays, après vous avez Charlie Chaplin, vous savez, c'est différent. Mais c'est le degré de compréhension le plus ultime de l'autrui, ça passe par l'humour. Et quand les gens, ils arrivent ici, ils arrivent à rire avec moi, à ce moment-là, je ne suis plus la notion abstraite de la tiers-mondiste qui vient de cet endroit infini qui s'appelle le Moyen-Orient. Et non, je deviens une personne. Ils se sentent proches de moi. Et c'est là où le message, il peut passer. Donc, c'est très important d'avoir de l'humour, oui.
Et vous travaillez votre humour? Ou ça...
Ben non, ça veut dire que je me rends compte que tout ça, c'est absurde. Donc, il faut quand même être... con pour ne pas avoir de l'humour, hein. C'est la base. Ça veut dire, cette vie, elle est courte. Elle n'est faite que des illusions. On va tous mourir. Et donc, si en plus, on prend toute cette affaire-là trop au sérieux, c'est qu'on doit être méga con. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense que l'humour, c'est juste un signe d'intelligence et également un peu de jugeote, quoi. Voilà. Mais la jugeote, ça va aussi avec l'intelligence, j'imagine.
Il était où cet atelier? Vous étiez avec...
Place des Vosges, l'endroit le plus chic de Paris. On avait l'atelier des Vosges. Non, mais c'était un atelier super, parce qu'en fait, il y avait un certain monsieur Bouls qui... C'était une famille qui avait tout l'immeuble. Alors, quand vous dites tout l'immeuble, on a toujours l'impression que c'est des gens ultra riches, etc. Non, c'est des immeubles qui restent dans des familles. Les gens, ils sont pas ultra riches et l'immeuble tombe en décrépitude chaque jour un peu plus. Ils vivent juste là. Donc, même si vous avez un appartement qui vaut, je sais pas, 10 millions d'euros, si vous vivez dedans, vous n'avez pas 10 millions puisque vous vivez dedans. Et en fait, on avait cet espace qui a été loué par cette famille. On a pu passer pendant des années là-bas. C'était merveilleux de travailler au Place des Vosges. On a parlé de la nouvelle vague de la bande dessinée comme si c'était, on avait fait exprès de se rencontrer pour créer pratiquement un mouvement artistique. Ça s'est pas passé du tout comme ça. C'est que aucun de nous avait les moyens de payer un atelier tout seul. Parce que personne n'aime, moi j'aime pas du tout travailler à côté d'autres gens, parce que des fois ils parlent, ça me déconcentre, tout ça. Et voilà, on a partagé un espace d'abord pour cette raison-là, et après ça devient stimulant. Après c'est vrai que quand vous n'avez pas trop envie de bosser et que vous avez votre pote à côté qui bosse, bah forcément on travaille beaucoup mieux. Et voilà, donc le hasard a fait qu'on avait à peu près tous le même âge, on avait les mêmes envies, on avait envie de faire les mêmes choses. C'est sur ça qu'on s'est retrouvés. Mais on n'a pas fait en disant, voilà, on va faire un atelier dans lequel on va avoir une création foisonnante. Ça ne s'est pas passé comme ça. Non.
C'est vous, Marjane Satrapi, qui avez souhaité que Persepolis devienne un film ou ça a été une demande
Ah non, mais on me l'a proposé et j'étais hyper contre. J'étais absolument contre ce truc-là parce que le langage d'un film et le langage d'une bande dessinée, c'est deux langages qui n'ont rien à voir. La bande dessinée, c'est pas du tout un storyboard pour un film. J'avais un ami qui travaillait à l'époque pour France Télévisions qui voulait être producteur et qui m'a dit pourquoi on ferait pas Persepolis. Et sérieusement, je freinais, vous voyez. Et j'ai dit, bon, alors qu'on va le faire en noir et blanc, il faut que ce soit fait dans le centre de Paris, on va le faire tous les dessins manuellement, et il me faut Catherine Deneuve, et Nyanya, et Lena, en pensant que ça allait pas se faire, et finalement ça s'est fait. Mais ça a été l'inconnu. Moi, j'étais sûre que j'allais faire le pire film de l'histoire du cinéma. Parce que normalement, les adaptations, c'est pas bien. Fait par l'auteur, c'est encore pire. C'est peut-être ça pour ça que on s'est quand même débrouillé pas mal avec Vincent. Oui.
Le film a été primé à Cannes.
Ouais.
Et il a été nommé aux Oscars.
Oui, ouais. Oui, oui.
Vous vous souvenez du film qui a gagné cette année-là?
C'est un peu décevant parce qu'il perd devant Pixar. C'est normal. Pixar, ils font les meilleurs dessins animés du monde. Même personne ne fait des dessins animés aussi bons que Pixar. Sauf que cette année-là, c'était Ratatouille. Et c'est vraiment pas un bon Pixar.
Ah, c'est pas mal, non?
Si c'était Hop ou Coco ou Wall-E, tous ces films-là qui sont merveilleux. Là, mais je peux pas dire que j'ai eu des boules parce que quand même, je trouve que Pixar, ils font des très bons films, quoi. Mais Ratatouille, c'est pas que j'aurais préféré. Tant qu'à perdre devant un chef-d'œuvre, par exemple, Hop, ça, ou Inside Out et tout ça, ça vice-versa. Ça, pour moi, c'est des très grands films. Mais un rat dans la cuisine qui fait de la super bonne cuisine, j'ai hyper la phobie des rats aussi, quoi. Voilà.
Qu'a changé le succès de Persepolis dans votre vie quotidienne, matérielle
Ben, matériellement, avant, quand j'étais pauvre, quand je voulais acheter ces feutres que vous voyez, c'est des feutres chers, il fallait que j'en achète un ou deux par mois. Et le temps que j'avais toute la collection, il y avait les premiers qui avaient déjà séché et que je ne pouvais pas avoir toute la collection en même temps. Maintenant, je peux tout acheter en même temps. C'est ça ce qui a changé. Il y a eu un moment, je pense pendant un mois, j'y ai trop cru en moi-même, genre j'étais arrivée, tout ça, je ne me sentais plus et tout. Bon, après, bon, c'était... J'avais fait une série de peintures comme ça que... je trouvais que c'était excellent parce que comme c'était moi qui l'avais fait, c'était génial et tout. Bon, je vais faire un boulot, je reviens. Et ce que j'avais pas, mon Dieu, c'était de la merde, mais vraiment pas bien du tout. J'avais fait, je sais pas, 40, 50 petites peintures, les unes plus moches que les autres. C'était affreux. Et là, je me suis dit, plus jamais il faut penser des choses comme ça parce que c'est la meilleure façon de faire des bouses. Il faut pas faire ça. Et là, j'ai commencé à faire de la peinture. Voilà, vous en avez un devant vous. Et maintenant, je fais ma deuxième expo au mois d'octobre. Donc voilà. Mais il y a eu un moment comme ça où je me la suis jouée. Je me suis dit, là, Marjane, là, tu domines trop. C'était pas bon. Hein. Je le ferai plus.
Alors, la peinture que j'ai devant moi, c'est une femme brune, habillée de rouge, d'un rouge éclatant.
Oui.
Ouais. Et avec de grands yeux noirs. C'est vous ?
Je pense que très sincèrement, je trouve que la blondeur est très très beau, sauf que c'est quelque chose que pour moi je peux pas comprendre la blondeur. C'est-à-dire, je suis super brune et les gens que j'ai côtoyés sont des brunes. Donc, je peux pas dessiner une blonde. Il y a quelque chose qui m'échappe. J'ai essayé d'en faire et en fait, quand je dessine des femmes blondes, elles ressemblent à des travelots. On dirait des travelottes. Voilà. Donc
Est-ce que vous pourriez vivre de votre peinture, hein?
Je pense que oui. Oui. Mais il y a d'autres choses avec lesquelles je peux vivre aussi. J'ai essayé de tout faire pour ne pas être obligée de faire des choses que je n'aime pas faire. Et la façon de faire cette chose-là, pour avoir la liberté dans la vie, il faut toujours accepter qu'on peut vivre pauvrement. Si vous acceptez cette posture de base, de dire « je peux vivre pauvrement », ça c'est la clé à la liberté. Parce que dès lors où vous pensez « il me faut tant de fric, parce que sinon ma vie elle est foutue », ben vous êtes obligé d'accepter n'importe quoi pour gagner le tant d'argent que vous avez besoin pour ce truc-là. Si vous vous dites « non, c'est pas nécessaire », ben là vous êtes libre.
Peut-être plus que Spiegelman, ce qui, en tout cas, moi, me vient quand je pense à Persepolis, c'est plutôt un modèle postérieur, c'est l'Arabe du futur de Riyad Sattouf, parce qu'il y a cette naïveté de ton qu'il n'y a pas chez Spiegelman. Est-ce que vous êtes d'accord? Quels commentaires vous feriez sur
Bah écoutez, moi, j'adore le travail de Riyad Sattouf, mais ce que vous appelez la naïveté, moi, j'appellerais ça plutôt l'humour. Et Riyad, c'est quelqu'un de absolument super drôle. C'est-à-dire, si vous le côtoyez, malheureusement, ça fait des années que je ne l'ai pas vu, mais il est vraiment, et il a vraiment un point de vue, il a une analyse des situations du monde qui sont tellement pertinentes et tout ça. Parce que, malgré tout, pour avoir l'air comme ça, pour avoir autant de légèreté, il faut beaucoup de travail, hein. Ce truc de mine de rien, il n'y a rien de plus difficile que de faire le simple.
Voilà, c'est la naïveté. Oui, c'est cette fausse naïveté que vous.
Oui, voilà, c'est le résultat de beaucoup, beaucoup de travail. Il faut que la peine ne se voit pas derrière. Et c'est ça le truc le plus difficile. Et Riyad arrive à le faire avec brio. Donc, merci pour faire le parallèle. J'adore son travail.
Marjane Satrapi, vous avez rencontré Art Spiegelman?
Oui, bien sûr. Je l'ai rencontré, en plus, c'était très marrant parce que je suis allée aux États-Unis et évidemment, c'était Marjane Satrapi, the new Art Spiegelman, the new Persepolis, the new Mouse et tout ça. Et je me suis dit, le pauvre Art Spiegelman, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait un truc en noir et blanc, c'est pas possible. Donc, je l'ai écrit un mail, je lui ai dit, excusez-moi, il y a toutes ces comparaisons qui sont faites entre vous et moi. Juste sachez que ce n'est pas moi qui ai fait cette comparaison, que vous êtes mon professeur, que vous êtes ma source d'inspiration. Je trouve que votre travail, ça n'a rien à voir. Je suis désolée pour cette comparaison, mais c'est pas moi qui nourris ce truc-là. Il a trouvé que mon mail était très sympathique et charmant, et deux jours après, il m'a invité chez lui, où j'ai rencontré sa femme aussi, et ses enfants, et après on est devenus amis.
Et il est comment de tempérament?
Mais je pense qu'il me ressemble beaucoup. Il parle énormément, volubile, bavard, grand fumeur comme moi. Je pense qu'il fume même plus que moi, ce qui en soi c'est beaucoup. Et très concentré, mais quelqu'un de très gentil, profondément gentil, oui. Très intelligent.
J'ai lu un entretien de vous dans lequel vous dites que si vous avez cessé de faire de la bande dessinée, c'est notamment c'est parce que vous connaissiez, voilà, c'était quelque chose que vous connaissiez, et parce que faire une bande dessinée qui marche, vous saviez ce que c'était. Alors, quelle est la recette?
Justement, il n'y a pas de recette. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire comment je fais pour faire un truc qui marche. Sauf que je sais comment ça marche. Mais comme je ne m'observe pas en train de travailler, mais je sais qu'il y a un moment donné où ça marche. Le truc, c'est que, vous savez, je fais un premier livre, j'ai du succès. Deuxième, troisième. Chaque fois que je fais un livre, j'ai des prix, j'ai des succès, j'ai du prix, j'ai du succès. À un moment donné, ouais, ça m'intéresse plus, en fait. Parce qu'il n'y a pas de difficulté et j'ai besoin de progresser et j'ai besoin qu'on me dise non et j'ai besoin de me dire, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il y a deux écoles. Vous savez, il y a des gens qui ont cette capacité de concentration, ils ont quelque chose, ils se concentrent et ils arrivent à mener cette chose-là à l'excellence. Au mieux, au top de ce qui est possible de faire. C'est une façon de faire. Moi, je suis impatiente. Et je suis trop obsédée avec ma propre mort pour vouloir me perfectionner dans un truc. Je me dis, avant que je meure, il faut que j'ai essayé ça. Et puis, il faut que j'ai essayé ça. Ah, mon Dieu, j'ai pas essayé ça. J'ai ce truc où il faut que... Alors, tout ça, vous allez me dire, ça sert à rien. Parce que quand je suis morte, je suis morte. Que j'ai fait 100 trucs. Mais bon, celui qui se perfectionne aussi, il est mort. Hein, donc, voilà. Mais sur ma nature, j'ai besoin d'un défi. En fait, j'ai besoin d'avoir très peur pour me dire je ne sais pas le faire, et c'est en fait l'apprentissage de ce que je ne sais pas faire jusqu'au moment où je sais le faire, c'est ce chemin-là qui est très intéressant. Le but ne m'intéresse pas vraiment, ne m'a jamais trop intéressé en fait. C'est tout ce cheminement de comment je vais arriver à un résultat, c'est ça ce qui m'intéresse.
Vous faites attention à vous tenir au courant des autres bandes dessinées qui peuvent ressembler à Persepolis et qui sont publiées ?
Non. Non. Non, j'ai jamais trop lu de bandes dessinées. J'en ai lu quelques-unes. Ben, il y en a des bons, mais vous savez, si vous... c'est encore une question de temps. Et à un moment donné aussi, j'étais intéressée, par exemple, de lire tous ces nouveaux romans, tous ces trucs qui gagnaient des prix par ça et par ci et par là. Souvent, je trouvais le bouquin tellement mauvais que j'ai rentré dans des vrais excès de rage à déchirer page par page, à m'énerver sur un livre. Donc, j'ai décidé que déjà, si pendant ma vie, j'arrive à lire les classiques que je n'ai pas lus, ça me demandera déjà toute ma vie. Donc, le but, c'est juste de mourir un peu moins con. Et le dernier truc qu'il faut que je me dise, quand même, t'as compris quelque chose. Voilà. C'est très important.
Vous parlez beaucoup de la mort.
Bah, comment voulez-vous que je parle pas de la mort? Je vais mourir, donc forcément, oui. C'est tellement mal fait, toute cette histoire. Vous voyez, là, j'ai 50 ans. OK. Donc, je sais vachement mieux comment la vie fonctionne par rapport à mes 20 ans. Donc, forcément, quand j'aurai 80 ans, j'ai vachement mieux compris comment la vie fonctionne par rapport à maintenant. Et ben, au moment où je commencerai à comprendre réellement comment ça fonctionne, il faut que je meure. C'est quand même insupportable. Comment voulez-vous accepter cette idée? C'est insupportable. Et après, il y a des gens qui me disent, oui, mais t'as fait des livres, t'as fait des films. Mais je m'en fous. Moi, je vais être éternelle en ne pas mourant, pas en laissant des livres. Je suis morte. Donc, oui, bien sûr.
Est-ce que vous faites moins de bêtises, enfin de bêtises, d'erreurs? Est-ce que vous vous trompez moins à 50 ans?
Ah non, il y a des choses que je sais, par exemple. Il y a des choses que je sais, c'est-à-dire je ne déploie pas d'énergie à des endroits qui ne sont pas nécessaires. Quand j'avais 20 ans, toute cette énergie que j'ai déployée, par exemple, pour plaire aux gens, il fallait que tout le monde dise « Ah, Marjane, c'est une chic fille, vraiment, qu'est-ce qu'elle est adorable et sympathique. Ben, » maintenant, je m'en fous. Si les gens ne m'aiment pas, je ne les aime pas non plus. Ça va, il n'y a pas de problème. Mais ça... cette chose-là, vous pouvez pas le dire à une gamine qui a 25 ans, vous pouvez pas le dire à une jeune femme qui a 30 ans, parce que c'est pas l'intelligence, c'est seulement, il y a un moment où vous comprenez que mathématiquement, si vous n'aimez pas la plupart des gens du monde, il n'y a aucune raison pour que tous les gens du monde vous aiment. Mais ce truc-là, il y a que l'expérience, il y a que le passage du temps qui vous le donne. Donc, c'est comme l'initiation au mysticisme ou un truc comme ça. Vous pouvez pas le faire tout concentré que vous êtes, l'initiation, vous pouvez pas le faire en 2 semaines. C'est pas possible. C'est un chemin qui prend 20 ans. Il faut le traverser. C'est le temps et remède à beaucoup de choses.
Vous ne vous ennuyez jamais, Marjane Satrapi?
Non, moi, avec moi-même, je m'ennuie jamais, non. Je suis une très bonne compagnie pour ma propre personne. Ouais.
Merci, Marjane Satrapi. Demain soir, nous parlerons de la religion.
Ouais, ben.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Marjane Satrapi. À voix nue, réalisation Marie-Laure Ciboulet, prise de son Arthur Dumont, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.